Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France à partir de 19h30. Comme tous les soirs ou presque, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais avant ça, comme tous les lundis soirs, place aux voix de la politique. Dans un instant, on retrouvera Guillaume Bigot et Nicolas Corato. Et si Marine Le Pen était plus proche du pouvoir qu'il y a 4 ans, le concert de critiques, le tir de barrage des proches de la majorité contre la présidente du Rassemblement National qui ont émaillé tout ce week-end après son débat face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui en arrive même à l'accuser de mollesse. Et si Marine Le Pen était en train de se dédiaboliser pour faire en sorte que beaucoup de Français aient de moins en moins peur de l'avoir arrivé au pouvoir? On en parle dans un instant dans les voix de la politique.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio avec Guillaume Bigot ce soir. Bonsoir à vous, Guillaume.
Bonsoir.
Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française, publié chez Plon. Nous sommes également en direct sur Sud Radio comme tous les lundis soirs avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Guillaume.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, publié chez Eredium. Et si Marine Le Pen était plus proche du pouvoir qu'il y a 4 ans? Et si le gouvernement avait peur d'elle? On écoute le débat justement qu'il a opposé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la semaine dernière. Gérald Darmanin, tout surpris, de la trouver de plus en plus modérée à son goût, en tout cas, et presque dédiabolisée.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là.
Et vous n'êtes pas assez dur, je vous trouve, là. Il devait s'attendre à une Marine Le Pen offensive et qui critique, ironique, du début jusqu'à la fin du débat, comme en 2017 face à Emmanuel Macron. Ça n'a pas été le cas. Résultat, les membres du gouvernement se sont succédés sur les plateaux de télévision et de radio ce week-end pour rappeler que Marine Le Pen était à leurs yeux dangereuse. On écoute le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
S'il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, voyez-vous, c'est les chiffres. Alors je me dis, bon, une première inexactitude, tout péché miséricorde, c'est une erreur, peut arriver à tout le monde. Une deuxième, c'est un petit manque de compétence. Et je vous dis qu'à la fin, quand tous les chiffres sont faux, c'est une menteuse incompétente.
Si Marine Le Pen n'est pas une ennemie de la République, ou si c'est plus difficile de le dire après le débat de la semaine dernière, autant rappeler qu'elle n'est pas compétente. Et de fait, c'est vrai qu'elle s'était trompée sur un certain nombre de chiffres. Le gouvernement aurait-il peur de Marine Le Pen? Nicolas Corato.
D'abord, peut-être qu'on peut dire, cher Jean-Marie, que ce débat ne fait pas honneur à la République ni au débat démocratique. C'était quand même en dessous de tout. Et c'est vrai qu'entendre un ministre de l'Intérieur, un ministre de la République dire à un opposant et une opposante politique qu'elle ferait mieux de prendre des vitamines, je trouve que vraiment ça en dit long sur le niveau.
Après ça, c'est une boutade à la limite, mais...
Oui, enfin, c'est pas qu'une boutade. Voilà, on n'en est plus là. Enfin, je pense que bon... L'autre sujet, c'est que je ne sais pas si Marine Le Pen arrivera au pouvoir. Je ne suis pas devin. Mmh. Je pense que rien n'est envisageable parce que le Covid change tout et que tout est possible en 2022, y compris que les élections présidentielles n'aient pas lieu. Mais si Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir, ses idées le sont déjà au pouvoir. Une grande partie de ses idées le sont. Et la diatribe de M. Darmanin, qui la considère comme molle, le prouve. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Gérald Darmanin avoue que la lepénisation des esprits et que la bataille idéologique a été gagnée par Marine Le Pen parce que lui-même a endossé une très grande partie des idées de celles qu'il a en face de lui. Donc, Marine Le Pen au pouvoir, moi j'ai toujours dit que c'était pas vraiment mon sujet. Le sujet, c'est les idées. Le sujet, c'est le programme. Le sujet, c'est le projet de société qu'on nous vend. Je constate que depuis ce débat, on a une clarification au gouvernement de la part d'un ministre très important, d'un ministre d'État, qui est qu'effectivement, aujourd'hui, la ligne gouvernementale du gouvernement est plus dure que celle de Madame Le Pen. C'est intéressant à noter. Moi, je le note et j'espère que d'autres citoyens l'auront noté.
Guillaume Bigot.
Alors, sur d'abord... La prestation, d'ailleurs, Jean-Marie, vous avez, en introduisant le sujet, fait un petit lapsus qui est très révélateur en parlant de débat et de dégâts. Oui, mais parce qu'à chaque fois que Marine Le Pen est en débat, il y a des dégâts, en fait, pour elle, effectivement, vu que sa stratégie de dédiabolisation et, disons, de sérénité sur la forme aboutissent finalement à ce qu'elle se laisse littéralement écraser. C'est-à-dire que M. Dupond-Moretti a pavoisé en enfonçant le clou sur les chiffres. Je ne sais même pas. Enfin, moi, je n'ai pas assisté à ce débat, mais voilà, 277 000 cartes de séjour, évidemment. C'est complètement scandaleux d'omettre les 178 000 demandeurs d'asile de 2019 et les 16 000 mineurs isolés.
Donc, là, vous revenez sur les désaccords qu'ils ont eu sur le chiffre. Mais au-delà de ça...
C'est faux. C'est absolument faux. Si vous voulez, le problème, c'est que les gouvernants mentent comme des arracheurs de dents. Qu'en face, cette pauvre Mme Le Pen, effectivement, manque de vitamines, c'est très clair. Mais par ailleurs, je suis assez d'accord sur le fait que la stratégie gouvernementale consistant à, d'une certaine façon, à légitimer son discours, à légitimer sa ligne politique en allant jusqu'à lui dire qu'elle n'est pas assez dure et qu'elle devrait prendre des vitamines, est extrêmement dangereuse. Ça signifie en fait qu'ils n'ont absolument pas peur d'elle. Alors, est-ce qu'ils ont raison de ne pas avoir peur d'elle, Je pense que oui, parce qu'elle est manifestement pas tout à fait à la hauteur même de son adversaire, M. Darmanin, alors ô combien de M. Macron, qui est quand même plus rompu à ce genre d'exercice. Hein. Mais surtout, il n'est pas du tout dit que finalement, ils ne lui fassent pas la courte échelle. En fait, ils lui font la courte échelle parce qu'ils ne la craignent pas. Mais en fait, je pense qu'ils ont tort. Elle peut tout à fait passer, finalement.
Elle pourrait passer. En tout cas, c'est la question qu'on se pose. D'ailleurs, personne ne demande ici si elle va gagner, parce que ça ne sert à rien de faire des pronostics. En revanche, la question se pose sur le fait qu'a-t-elle moins de handicap avant la ligne de départ, finalement, qu'elle n'en avait il y a 4 ans lors des élections présidentielles de 2017, où elle a fini par perdre avec près d'un tiers des voix contre les 2/3 et Emmanuel Macron. Ça pose une autre question, Nicolas Corato. Après un débat comme celui qu'on a vu entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, est-ce qu'il y aura beaucoup d'électeurs de gauche qui iront faire barrage à Marine Le Pen en cas de second tour face à Emmanuel Macron ? Je parle d'électeurs de gauche, je parle presque de vous d'ailleurs.
Merci. On est un peu plus que moi à voter à gauche quand même. Je ne suis pas le seul citoyen de cette...
Vous serez la maison témoin, on va dire ça comme ça.
D'accord, je veux bien être la maison témoin de la gauche, ça m'intéresse énormément. Ce qui est clair, c'est que depuis ce débat, je le disais, il y a une clarification. Il y a une clarification dont on avait assez peu besoin en fait, parce qu'on avait bien vu que ce gouvernement, depuis les lois liberticides, depuis un certain nombre de déclarations, allait faire effectivement la courte échelle à Marine Le Pen et à son électorat. Donc, Emmanuel Macron, finalement, il fait un chantier après l'autre. Hein. Il a détruit la gauche, c'était pas très très compliqué. Et ensuite, il considère que c'est un acquis, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur cet acquis. Il a pris le bloc bourgeois de la gauche. Il a pris aujourd'hui le bloc bourgeois de la droite, et d'une certaine manière, l'idée de la consolidation de l'adhésion du bloc bourgeois à droite passe par la neutralisation d'une partie de l'influence de Marine Le Pen à la droite de la droite. Donc, il reste cet petit espace de la droite extrême, que moi j'appelle la droite extrême, qui n'est pas complètement l'extrême droite, qui pourrait encore échapper au bloc bourgeois. Et l'idée, c'est de dire, après tout, si on arrive à convaincre ces électeurs que le projet présidentiel porté par le nouveau quinquennat sera au moins aussi sévère que celui que nous vend Marine Le Pen, on aura collé, entre guillemets, ces électorats, on aura recollé ces électorats au bloc bourgeois. La gauche, c'est pas le sujet d'Emmanuel Macron, c'est pas le sujet de Gérald Darmanin. La gauche, c'est plus le cadet de leurs soucis. D'ailleurs, ils font une erreur, à mon avis, parce que le vrai espace aujourd'hui politique, il est plutôt à gauche. Je dis pas que la gauche sait en profiter, je dis pas que les hommes et les femmes politiques de gauche savent saisir l'opportunité, mais manifestement, la gauche est en déshérence et le pouvoir actuel ne regarde plus stratégiquement vers sa gauche. C'est une erreur.
En tout cas, les électeurs de gauche.
Oui, et vers les électeurs de gauche, qui sont considérés comme des islamo-gauchistes, des gens qui n'ont rien compris, et que les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont rejoint le bloc bourgeois, suffisent à consolider cet électorat qui est très très solide pour Emmanuel Macron.
Vous trouvez que l'électorat d'Emmanuel Macron est très solide ?
Oui.
Lorsque vous comparez les résultats de l'élection présidentielle à ceux des élections municipales, que vous regardez les résultats des élections européennes qui avaient été un peu meilleures que prévues, c'est vrai.
Peu importe.
C'est quoi l'électorat d'Emmanuel Macron,
fondamentalement ? Non, mais l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est un électorat qui va se polariser sur les élections présidentielles et les élections nationales, les seules qui comptent. Le bloc d'Emmanuel Macron, et on le voit dans tous les sondages, malgré les résultats électoraux, il reste très stable et il reste très, très en place. Et je pense qu'au moment fatidique où il faudra choisir, choisir entre l'ordre et le désordre, choisir entre les progressistes, comme le dit Emmanuel Macron, et les populistes, effectivement, ce bloc électoral fera corps, puisque c'est la stratégie qu'a mise en place Emmanuel Macron
depuis le début de son quinquennat. On parle de quoi ? 22, 23, 24% à peu près des sondages entre les résultats du dernier premier tour de la présidentielle.
Oui.
Et les sondages, ça ne fait pas une victoire au second tour.
On parle de ce qui permet d'être au présent second tour face à Marine Le Pen.
Et qui vote ensuite ? Et qui s'y ajoute pour se rallier à Emmanuel
Macron ? Peu
importe,
puisqu'ensuite vous êtes face à Marine Le Pen. C'est la réitération du coup de poker et du grand coup de bluff qui a été magnifiquement tenté en 2017. Moi, je suis persuadé que cette stratégie va à l'échec, va à l'impasse et qu'elle est dangereuse parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est plus au niveau des personnes, mais des idées qui prévalent dans ce pays. Mais effectivement, c'est bien ça le sujet. Le sujet d'Emmanuel Macron, c'est de se retrouver seul au second tour face à Marine Le Pen. Et tout est fait depuis le quinquennat pour favoriser ce nouveau duel.
Et les derniers sondages sont assez serrés en ce qui concerne le second tour de l'élection présidentielle. 48% pour Marine Le Pen, 52% pour Emmanuel Macron. C'est un des derniers sondages. Si le second tour de la présidentielle opposait ces deux candidats et avait lieu en ce moment, c'est de plus en plus serré et indécis, Guillaume Bigot.
Oui, ben je reprends cette idée qu'ils n'en ont pas peur et donc ils la font monter, mais ça peut se finir comme l'arroseur arrosé. Alors essayons de comprendre pourquoi. D'abord parce qu'il y a une illusion d'optique, c'est-à-dire que la dernière fois, il n'y a pas eu de sortez le sortant, puisque le sortant, tellement essoré par son expérience aux affaires, ne s'est même pas représenté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point…
On parlait de François Hollande.
Bien sûr, François Hollande, parce qu'à chaque fois, il y a eu cette volonté de voter contre celui qui détenait la fonction. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy auparavant, ça a été le cas de multiples fois auparavant, en tout cas au moment depuis les années 90, où le système politique s'est mis à se désaxer. Ensuite, deuxième illusion d'optique, sortez les sortants ou sortez les partis de gouvernement, mais il n'y en a plus. Donc, comme ça, c'est réglé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternatives crédibles à gauche, il n'y a plus d'alternatives crédibles à droite, gauche de gouvernement, droite de gouvernement, qui est capable de créer finalement une alliance de second tour, un ralliement au second tour. Donc, on oublie maintenant qu'on vote surtout contre, on ne vote pas tellement pour. Ça. Enfin, troisième argument, je pense que la participation, le taux de participation est un facteur très important. Très important. C'est-à-dire, si la participation est très faible, il n'est pas du tout dit qu'ils arrivent à la stopper. Enfin, quatrième argument, le coup du barrage, là aussi avec les castors, etc., ça fonctionne de moins en moins. En réalité, on l'avait déjà vu la dernière fois avec Mélenchon, c'est-à-dire l'hostilité au système peut être plus forte finalement que l'hostilité à Marine Le Pen.
Il y a des chiffres qui parlent, juste avant de vous redonner la parole, Guillaume Bigot. 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour contre Jacques Chirac, 82% des Français votent contre Jean-Marie Le Pen. 2017, 67% à peu près des Français votent pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ça avait déjà baissé, on était encore aux deux tiers. Ce serait logique que ça baisse encore.
Alors, y a deux différences. La première, c'est que, les partis dits de gouvernement pesaient quand même à peu près de tête 60% encore en 2002. Voilà. Il y avait des excroissances de ces partis de gouvernement, c'est-à-dire François Bayrou, Jean-Pierre Chevènement, etc.
2002, c'est l'élection où il y a eu le plus de candidats différents, y compris dans les partis de gouvernement, c'est vrai.
Un morcellement, absolument. Ça, c'est le premier argument. Et puis, la fille n'est pas le père, évidemment. La fille n'est pas le père. Et enfin… la conjoncture, politique, si on en est à avoir, si vous voulez, la diabolisation, c'était une diabolisation des personnes, mais c'était aussi et surtout une diabolisation des programmes. Là, si on a un ministre de l'Intérieur qui dit de Mme Le Pen, sur sa thématique qui est la plus clivante, qu'elle est trop molle, il y a une légitimation totale du programmatique, de la partie programmatique. Mais surtout, il ne faut pas écarter une option de cynisme aussi de certains acteurs politiques. Souvenons-nous de ce qu'avait fait Jacques Chirac, il avait donné le coup de pied de l'âne à Valéry Giscard d'Estaing. Donc, on peut tout à fait imaginer que des candidats qui ne soient pas suffisamment forts pour accéder au second tour se disent « je préfère éliminer le candidat, disons, qui me fera le plus d'ombre et donc je vais mettre au pouvoir celui qui m'en fera le moins ou celle qui m'en fera le moins en l'occurrence ». Donc, sauf à ce qu'il y ait, disons, une candidature qui vienne de nulle part et qui rafle la mise, comment ça serait possible ? Moi, je pense que ce soit à gauche ou à droite, un candidat, disons, du bloc bourgeois, pour reprendre l'expression de Nicolas, à laquelle je souscris en partie, il suffirait qu'un quelqu'un au sein du Parti Socialiste soit une chèvre ou quelqu'un à l'intérieur de LR soit un âne, mais que cette chèvre ou cet âne dise bah, « Écoutez, nous acceptons de travailler avec le Rassemblement National parce qu'il porte des thématiques qui ne sont pas totalement inintéressantes et parce que finalement, ce qui menace le plus la République, c'est d'un côté l'islamisme et de l'autre l'Europe, alors cet âne ou cette chèvre, je vous l'annonce, sont d'ores et déjà, sans même le savoir, avant même qu'ils candidatent, sont déjà à l'Élysée. » Évidemment que les Français se jetteront comme un seul homme et feront un raz-de-marée à plus de 60% pour n'importe qui ne soit pas le Front National qui travaillera avec le Rassemblement National.
Et ça, pour vous, ça continuera ainsi. Nicolas Corrato, vous avez beaucoup parlé, alors là, je vais reformuler en parlant de droitisation du gouvernement, au moins du gouvernement lorsqu'on écoute Gérald Darmanin qui accuse le Rassemblement National d'être mou. Revenons un peu au Rassemblement National. On se souvient de la campagne de 2017 jusqu'au second tour. Marine Le Pen voulait la sortie de l'euro. Elle fait un petit compromis difficilement compréhensible avec son alliance avec Dupont-Aignan. Et là, aujourd'hui, elle ne remet plus du tout en cause l'appartenance de la France à l'euro. Aujourd'hui, Marine Le Pen ne remet presque plus en cause l'appartenance de la France aux accords de Schengen, c'est-à-dire les contrôles aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Front National d'antan, Nicolas Corrato ?
Ben, c'est une bonne question. Finalement, effectivement, Marine Le Pen apparaît aujourd'hui moins souverainiste, par exemple, qu'un Montebourg, moins sécuritaire qu'un Darmanin. Et c'est vrai que cette forme de normalisation est allée un peu loin. Elle est allée un peu loin. Alors, j'ai un petit, bien entendu, une petite différence avec Guillaume. Marine Le Pen avait aussi beaucoup marqué les esprits par un discours très social sur la campagne de 2017. Qui dépassait d'ailleurs le simple refus ou rejet de la politique européenne. On se souvient de l'épisode devant l'usine dans le Nord dont le nom m'échappe mais que je vais retrouver. Mais on voit bien que Philippot avait apporté un certain corpus social à cette extrême droite qui en manquait. Et qui avait fait quand même beaucoup pour le succès de cette campagne. Moi, je pense quand même que les Français, et on le voit en termes de préoccupations, classent en premier lieu la santé, aujourd'hui en deuxième lieu le pouvoir d'achat et l'emploi, et en troisième lieu la sécurité. Et que finalement, Marine Le Pen ne peut pas construire une campagne victorieuse en se basant uniquement sur la sécurité, pour laquelle elle est challengée, voire même jugée trop molle par le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il reste de social dans le programme de Marine Le Pen ? C'est un vrai sujet parce que Marine Le Pen, elle ne s'implique pas sur le bloc bourgeois, elle s'adresse au bloc populaire. Et ce bloc populaire, aujourd'hui, il a un problème avec sa santé, son pouvoir d'achat et l'emploi de ses jeunes et de ses enfants.
Et l'emploi, effectivement. Vous parliez de l'usine dans laquelle les deux candidats, c'était le moment fort de la dernière présidentielle, s'étaient affrontés, en tout cas succédés. C'était l'usine Whirlpool à Amiens. Marine Le Pen y était allée le matin. Emmanuel Macron y était allé ensuite sous les colibés l'après-midi. Justement, Guillaume Bigot, qu'est-ce qui reste du Front National de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui ?
Avant d'essayer de vous répondre, c'est une question très habile et astucieuse. Oui, c'est souvent les présidentielles maintenant se jouent autour des usines. Vous avez remarqué, c'était déjà le cas au moment déjà à l'époque de Jospin. Parce que c'est la désindustrialisation et parce que c'est l'impuissance, la fameuse impuissance.
C'était les biscuits lus à l'époque de Lionel Jospin en 2002. Il avait expliqué que l'État ne pouvait pas tout, ce qui lui avait collé au basque pendant la campagne.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui reste du Rassemblement National ? Sincèrement, pas grand-chose. De toute façon, le Rassemblement National, c'est une métempsychose politique depuis le départ. Pourquoi ? Parce que c'est un ramassis, disons, d'OAS, un ramassis de vichistes avec quelques résistants, parce qu'il faut aussi dire qu'il y avait des gens d'extrême droite qui résistaient, il y avait des gens d'extrême gauche qui résistaient à Londres. En réalité, les centristes, centre-gauche, centre-droite, sont couchés devant les Allemands. C'est quand même ça le fond de l'affaire historique.
Oui, rappelez-vous aussi, alors mauvais exemple parce que c'est un des fondateurs du Front National plus tard, Guillaume Bigot. Rappelez-vous aussi le fondateur du MRP, qui était le grand parti centriste, un grand résistant. Il n'y a pas eu que de l'extrême gauche ou de l'extrême droite.
Bien sûr, ce serait caricatural, mais je forçais un peu le trait parce que énormément, disons, des socialistes bontins, des gens de droite bontins et centristes, à cause du pacifisme, vous le savez, parce que les historiens ont très bien montré. Ont été à Vichy, tandis que des gens très extrémistes, en fait, que ce soit à gauche ou à droite, se sont parfois retrouvés à Londres. Donc c'est un peu surprenant. Mais enfin, ce parti qui tenait dans une cabine téléphonique autour de Jean-Marie Le Pen, eh bien tout de suite, il a pris un créneau qui était celui laissé par le Parti communiste, en fait. Ils ont récupéré et les thématiques du Parti communiste et l'électorat du Parti communiste. Alors évidemment, au début, il y a eu un peu de réganisme parce que c'était à la mode. Puis ensuite, ils ont changé, disons, de logiciel pour s'adapter à l'ère du temps. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que c'est un parti qui a capté de manière assez solide 25 à 30% du corps électoral. C'est le premier parti de France, mais que c'est un parti pestiféré. Personne ne veut s'allier à lui. Donc, évidemment, la résolution de l'inconnu de cette équation, l'inconnu politique de cette équation, c'est que quelqu'un à l'extérieur du Rassemblement national, qui représente ce fameux bloc bourgeois, accepte de travailler avec eux. Et là, aussi sec et aussi tôt, pour deux raisons, ce candidat ou cette candidate sera immédiatement à l'Élysée. Pourquoi ? Premièrement, parce que toute la bien-pensance hurlera à la mort en disant « Mais regardez, c'est scandaleux, c'est scandaleux. » En fait, ce que je suis en train de décrire, c'est ce que Mitterrand avait fait avec le Parti communiste, hein, bien sûr. C'est ça qu'il faut rééditer. Alors là, si quelqu'un au PS ou si quelqu'un chez LR fait ça, évidemment, toute la presse va lui tomber dessus, toute la bien-pensance va lui tomber dessus, ils vont hurler à la mort. Là, buzz formidable. Donc là, évidemment, les électeurs vont se dire « Enfin, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de nouveau dans le champ politique. » Et deuxièmement, eh bien, cette personne bénéficiera à la fois des reports de voix, à la fois du côté sulfureux, à la fois de la détermination à casser le système et à changer le système, c'est-à-dire négocier en Europe, c'est-à-dire faire obtempérer les juges, c'est-à-dire stopper l'immigration, c'est-à-dire réindustrialiser, etc. Et on en revient à l'impuissance de l'État. Évidemment, sans baguette magique, ça n'existe pas, mais en tout cas, en remontant au vent et en changeant la stratégie et la stratégie politique, et surtout, eh bien, il va y avoir... Dans ce cas, il y aura, disons, un effet de crédibilité et un effet bourgeois, un effet de décence que ne peut pas avoir le Rassemblement national.
Nicolas Corato, dernière question. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il a manqué jusqu'à présent ? Et surtout, qu'est-ce qu'il manque encore au Rassemblement national pour arriver au pouvoir ? En gros, pour dépasser les 50% des voix dans un second tour, en dehors de 5 ou 6 circonscriptions législatives.
Alors, comme le disait très, très bien Guillaume Bigot, il leur manque des alliés et des vrais alliés. Et des vraies alliances qui vont bien au-delà de la dédiabolisation. C'est-à-dire que la dédiabolisation, c'est pas uniquement une idée que de circulation des idées. C'est d'abord une idée d'adhésion et d'adhésion d'une partie des notables du système actuel à l'alliance avec le Rassemblement national. Et puis, je pense qu'il manque à ce parti aussi une défamilisation, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire que tant que ce parti restera l'épicerie de la famille Le Pen, je pense que ce parti n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Ce parti accédera au pouvoir quand il aura coupé le cordon ombilical avec la famille Le Pen et que d'autres pourront porter publiquement le leadership de ce parti et de ses idées.
Ce serait en tout cas ce qui s'est passé d'ailleurs et déjà produit au moins en Italie pour ce qui est de l'ancienne Ligue du Nord qui est devenue la
Ligue.
C'est
l'exemple que j'ai en tête.
C'est l'exemple que vous aviez effectivement en tête. Merci à vous d'être intervenus tous les deux ce soir sur Sud Radio.
Merci.
Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Redium. Merci à vous Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer, d'après vous, d'après Guillaume Bigot, la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. Bonne soirée à tous les deux, chers amis. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Dans un instant, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio, c'est également sur Bismart et vous retrouvez tout de suite Stéphane Soumier.